μαζί άντρες και μπουσμένοι ο Κασέρος για σας. Διερρεύσεις το όταν μάθετε.
C'est l'heure de parole aux auditeurs, une émission 100% interactive sur les antennes de Radio Capi. Pour débuter la semaine ce lundi, nous nous focalisons sur la prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés. D'après une étude de la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats, dont les résultats étaient rendus publics la semaine dernière, les enfants représentent jusqu'à 40% d'éléments des groupes Mai Mai dans les deux Kivus. Le résultat de cette enquête nous permet de parler des enfants associés aux forces et groupes armés. Ces enfants accompagnent de tels groupes en tant que simples membres des familles. Il y a des filles recrutées à des fins sexuelles ou pour des mariages forcés. Le terme enfant-soldat ne s'applique pas seulement aux porteurs d'armes. Il inclut également les enfants qui occupent les fonctions de mineurs ou des mineurs, éclaireurs, espions, porteurs, courtiers, gardes, sentinelles, cuisiniers, esclaves domestiques, que l'enfant soit recruté de manière volontaire ou forcée. La question au centre de parole aux auditeurs, comment protéger les enfants contre le recrutement dans les groupes armés? Nous avons invité M. Gauthier Louyela, il est directeur chargé de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Cette émission connaît la réalisation de Pierrot et la Mégie, Titi Boutou, sous la supervision de Nicole Ganka. Sylvain Matoubou est à la mise en œuvre. Soyez tous les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Encore une fois, bonjour, l'invité de notre émission, il s'agit de Monsieur Gauthier Louyela, il est en ligne. Bonjour Monsieur Gauthier.
Bonjour Madame la journaliste.
Oui, vous êtes directeur chargé de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants. Aujourd'hui, nous parlons des enfants associés aux groupes armés. Ces enfants, il faudrait d'abord qu'on puisse spécifier qu'un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et on disait que ces enfants qui sont associés aux groupes armés ne sont pas seulement des combattants. Ils peuvent accompagner des tels groupes en tant que simples membres des familles. Ça peut être des filles qui sont recrutées à des fins sexuelles ou pour des mariages forcés. Le terme enfant-soldat inclut également les enfants qui occupent les fonctions de mineurs, des mineurs éclaireurs, espions, porteurs, coursiers, gardes, sentinelles, cuisiniers. Donc il y a plusieurs fonctions que ces enfants peuvent occuper dans ces groupes armés. Et l'enfant qui est recruté, ça peut être de manière volontaire ou forcée. Dites-moi un peu, Monsieur Gauthier Louyela, quelle est la situation actuelle de l'enfant soldat en RDC?
Oui, merci Madame la journaliste. Je voudrais de prime abord vous remercier pour l'opportunité que vous offrez aujourd'hui par votre mission au ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant pour pouvoir éclairer l'opinion sur cette importante question qui met, il faut le dire, en péril l'avenir de notre pays. Je dis l'implication des enfants dans les conflits armés qui ont secoué, nous le savons tous, notre pays et qui continue malheureusement encore dans certains points du territoire national. Je pense notamment dans le nord de la province orientale, dans la région de Bourg, dans l'agglomérat, dans les anciennes provinces du Kivu et récemment dans le nord de la province de l'Équateur. Cela dit, vous nous aviez demandé d'intervenir sur la politique du gouvernement concernant la prévention et la protection des enfants contre leur utilisation dans les groupes de forces armées. Et je voudrais d'abord rappeler que notre pays a l'opinion, que notre pays est partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifié par l'ordonnance du 22 août 1990.
Mm-hmm.
Et à ces protocoles facultatifs, notamment celui concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui a été ratifié en vertu du décret-loi du 28 mars 2001, pris par le héros national, ce musée Laurent Désiré Kabila. Déjà en pleine guerre d'agression que l'étranger nous avait semé.
Mm.
Et par rapport à ces ratifications, le gouvernement a pris des engagements fermes pour leurs applications. Et il faut dire que notre pays a mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de la CEDEAO, à travers le ministère du Genre, une direction pour le suivi de cette mise en place, qui est la direction de la protection de l'enfant que je dirige actuellement. Et aussi, par le biais du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, le gouvernement a mis en place vers les années 1997 le Conseil national de l'enfant qui regroupe les intervenants aussi bien publics que privés dans le domaine de l'enfant.
Oui, s'il vous plaît, monsieur Louyer, là, mais pour l'instant, actuellement, précisément maintenant, qu'est-ce que le ministère fait en fait pour la protection du prévention des recrutements d'enfants dans les groupes armés?
Oui, j'allais venir. Je voulais dire que par ses attributions, le ministère du Genre a entre autres missions la protection et la promotion du statut de la femme et de l'enfant, en collaboration bien sûr avec d'autres ministères, il faut se faire. Et il doit vulgariser, promouvoir tous les textes et toutes les recherches par rapport à la condition de l'enfant. De ce qui précède, le ministère du Genre a une mission principalement axée sur la prévention. Et à ce titre, plusieurs actions ont été ainsi menées, notamment, primo, par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant, déjà, à partir de 1988, le ministère du Genre à l'époque a amorcé la vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant à l'échelle nationale.
Oui, monsieur, nous allons vous reprendre tout juste après, parce que vous êtes notre invité tout le long de l'émission. Nous allons prendre certains auditeurs pour un peu avoir leur avis concernant la prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Arsène, de qui quitte vos propositions pour protéger les enfants contre le recrutement dans les groupes armés?
Ok, merci maman. Alors moi, je vais parler plutôt, commençons d'abord par un peu l'historique. Dans l'armée qu'on a appelée la force publique, il n'y a pas eu d'enfants. Dans l'ANC, il n'y a pas eu d'enfants. Dans les forces armées d'Aïroise, il n'y a pas eu d'enfants. Mais depuis un certain moment, nous avons constaté depuis 97, je crois, qu'il y a eu un phénomène, ce qu'on appelle le phénomène Kadogo. Alors, aujourd'hui, on parle encore des enfants dans les forces armées, de Mai Mai, consort. Mais, je dirais ceci, nos autorités doivent savoir que l'enfant doit être protégé par, d'abord, l'occupation de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut occuper l'enfant? On peut occuper l'enfant à l'école. S'il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas d'école, on essaie un peu d'encadrer ces enfants par des travaux manuels. C'est pour donner un petit exemple que je vais prendre à partir d'ici à Kikwit. Il y a deux jours, j'ai remarqué au port de Kikwit, il y a eu quelques tracteurs, une dizaine de tracteurs qui sont venus. À supposer qu'on prenait tous ces enfants, on prend par exemple une centaine d'enfants, on leur donne ces 10 machines et les outils, on leur met sur le terrain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les enfants travaillent sans beaucoup trop réfléchir. C'est comme ça que dans les armées, on utilise l'enfant qui ne sait pas bien réfléchir avant d'agir ou combattre. C'est pour ça que dans toutes les guerres du monde, vous verrez que ce sont les enfants qu'on utilise pour l'espionnage, pour consommer ce que vous avez déjà énuméré. Alors moi, je proposerais ceci. nos frères qui sont à l'Est, qui sont en train de prendre les enfants, détruire l'avenir des enfants, en leur donnant les armes, doivent savoir qu'à côté des armes, une arme coûte combien ? Une arme vaut presque une machine et un outil qu'on peut donner aux enfants et leur mettre au travail, les mettre au travail plutôt, pour que l'enfant puisse commencer déjà dès le bas âge à travailler. Nous avons connu ça quand nous étions encore jeunes, dans le scoutisme. On nous montrait comment travailler. Les théories qui sont dans les bureaux, ce n'est pas ce qui se trouve sur le terrain. Ce qu'un autre gouvernant doit savoir, il doit passer sur le terrain, dans l'acte. Quand on fait des cérémonies, l'enfant, ça ne signifie rien. En même temps, les enfants qui sont en l'air sont en train d'être détruits. Moralement, ils sont détruits. Mmh. Donc, voilà, quand je donnerai ma proposition, c'est plutôt mettre les enfants au travail, les apprendre les travaux manuels. Mmh. Et là, ils peuvent aussi apprendre l'éducation sociale et tout.
Merci voilà mon intervention, madame. Vous pensez que pour éviter de pouvoir recruter les enfants, pour prévenir, il faut déjà trouver une occupation à ces enfants, soit l'accès à l'éducation ou bien trouver un travail qui puisse les occuper. Merci beaucoup, Arsène, pour votre proposition. Bonjour, Robert. S'il vous plaît, Robert.
Oui, madame.
Est-ce que vous pouvez d'abord éteindre votre poste récepteur, hein, pour comme ça suivre l'émission par le téléphone. Robert, on vous écoute à partir de Lubumbashi.
Oui, nous sommes très contents du fait que nous participons à cette émission qui est vraiment une émission éducative. J'aimerais parler à propos de ce qui s'est passé pour terminer avec la prévention. J'aimerais demander à notre invité, qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure punitive pour ceux qui se sont retrouvés dans cette affaire de recrutement d'enfants? Des mesures préventives. Le gouvernement a toujours pris des mesures préventives. Si vous allez dans nos bureaux, dans toutes les institutions, il y a beaucoup de mesures qui font à ce que l'enfant doit être protégé, tout ça. Maintenant, nous voulons demander à ce que les enfants soient bien intégrés et avec beaucoup de moyens, mettre à leur disposition des écoles. Pour ceux qui se trouvent, par exemple, de l'autre côté à l'Est, il y a certains enfants qui n'ont pas d'autres préoccupations. Mm-hmm. D'autres étaient allés au champ. Et comme ils n'avaient rien, c'est ainsi qu'ils ont voulu entrer dans l'armée. Mais ça, c'est une action qui est toujours regrettable et on doit sanctionner sévèrement. Nous sommes très contents de la tolérance zéro. Nous voulons que le chef de l'État lui-même puisse s'atteler sur ces décisions après que l'enfant...
Mais Robert, quelles sont les propositions, à part l'éducation que vous avez soulevée, quelles sont les propositions pour prévenir, en fait, le recrutement des enfants?
Madame, les propositions, moi, je dirais que nous devons faire l'action de réinsertion et de rééducation des enfants dans les milieux où ils ont connu des guerres. C'est tout ce que j'avais à proposer. Oui.
Merci beaucoup, Robert, pour votre participation, votre intervention à cette émission. Nous revenons à notre invité. Il s'agit de Monsieur Gauthier Louyela. Il est directeur chargé de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants. Monsieur Louyela, vous avez suivi nos auditeurs?
Oui, merci, madame. J'ai suivi nos deux auditeurs.
Oui, la première chose, c'est vrai qu'avant de parler de prévention, il faut d'abord qu'il n'y ait pas de guerre. Il faut d'abord qu'il y ait la sécurité. Dites-nous un peu maintenant, quels sont, au regard des interventions des auditeurs, il y a même Robert qui a fait une proposition et qui a posé une question plutôt pour savoir quelles sont les mesures punitives aux responsables des groupes d'armées, peut-être qui ont été fonctionnels avant. Qu'est-ce qui a été fait pour punir ces responsables qui ont recruté les enfants à l'époque?
Je l'avais dit, madame, que la guerre nous était imposée, qu'à cela ne tienne, je crois que l'opinion retient qu'il y a eu instauration de la Cour pénale internationale qui, aujourd'hui, est en train de juger certains de nos compatriotes, dont Thomas Mbanga, qui a été reconnu auteur de recrutement des enfants.
Mais au niveau national,
il y a eu dans les régions de, ou qui ont nos régions qui ont connu la guerre, les tribunaux militaires qui ont saisi avec célérité tous les chefs de guerre, connus auteurs de recrutement d'enfants. Parce que connus, nous n'avons pas maintenant la situation totale, mais dans les prochaines émissions, nous pourrons nous préparer à amener, il faut dire, que le gouvernement a fait un travail de temps pour arriver à punir tous les auteurs.
Mmh.
Et par rapport au cadre juridique, il faut dire qu'avec la promulgation de notre loi portant protection de l'enfant, il est sans équivoque, le recrutement est interdit et les auteurs sont vraiment punis et avec la plus grande fermeté.
Oui, mais comme nous savons, à l'Est, c'est là où on déplore, c'est même là où c'est la coalition de lutte contre le recrutement d'enfants a mené ses enquêtes, c'est là où il y a vraiment un problème. Et aussi, sans oublier les groupes étrangers qui sont sur notre terre, sur notre territoire, notamment avec les NRA et autres. Là, souvent, on rencontre des enfants qui sont enlevés, qui sont pris de force pour participer, pour faire partie de ces groupes armés. Mais dites-nous un peu, dans ces lieux, dans ces endroits, quelle est la politique en fait du gouvernement pour éviter que ces enfants puissent être recrutés?
Madame, je crois que les efforts inlassables que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, en tête le président de la République, pour arriver coûte à pacifier le pays, est en train de porter ses fruits. Les recruteurs aujourd'hui sont le fait de groupes réfractaires qui ne veulent pas la paix. L'effort du gouvernement avec la collaboration de la communauté internationale est de traquer cela et les mesures judiciaires sont prises pour les traquer. De l'instant que la loi interdit le recrutement, des efforts sont faits pour vulgariser à la fois ces instruments-là, autant national qu'international. Les efforts sont faits pour encourager la population à dénoncer les recruteurs afin qu'ils répondent de la justice.
Oui. Merci
et
beaucoup.
Oui,
merci beaucoup, monsieur Louyela. On va prendre d'autres auditeurs qui veulent aussi donner leur avis, s'exprimer à propos de ce sujet. Et puis nous allons revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Bonnie.
Bonjour.
Oui, vous faites partie en fait de la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats. C'est cette coalition qui a sorti, qui a rendu public les résultats de l'enquête que vous avez menée en 2009 sur ce sujet. Vous avez même déclaré en fait que les enfants représentent jusqu'à 40% d'éléments des groupes Mai Mai dans les deux Kivu. Comment est-ce que vous avez pu avoir tous ces chiffres?
Oui, bonjour madame, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur le ton de votre radio au cours de cette émission qui est très importante et qui va pouvoir mettre un peu de lumière sur cette question d'enfants au sein de l'Église Maïmaï.
S'il vous plaît, Bonnie, est-ce que vous pouvez d'abord éteindre votre poste récepteur ou bien votre radio parce qu'on a un retour et la qualité de son n'est pas vraiment très bonne. Monsieur Bonnie, vous pouvez reprendre.
D'accord. Je voulais dire que je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez offerte pour intervenir sur la radio.
Mm-hmm.
Et pour répondre à votre question spécifiquement en ce qui concerne le nombre d'enfants dans le groupe Mai Mai, comment nous avons su qui constituent à peu près le tour des postes en présence tels qu'on les a identifiés. En fait, nous nous sommes basés sur les différents rapports de monitorage qui parviennent aux instances qui travaillent sur cette question, notamment les rapports des Nations Unies, les rapports des ONG internationales et des ONG locales qui sont bien au courant des opérations qui ont été menées dans ce sens lorsqu'il s'agissait de sortir les enfants des postes de l'armée. Les effectifs étaient autour de 30 à 40% d'enfants. Mm-hmm. Et dans notre rapport d'il y a 2004, le rapport mondial qu'a publié la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soudains, nous avons bien spécifié, sur base des différents rapports qui se sont recoupés, qu'effectivement, on estimait à environ 50% des combattants de Mai Mai, mm-hmm. Qui avaient l'âge de 18 ans et que beaucoup d'entre eux avaient même moins de 15 ans.
Mm-hmm.
Voilà.
Et est-ce que la situation évolue parce que l'enquête est de 2009? Est-ce que jusqu'à présent, aujourd'hui nous sommes en mars 2010, est-ce que la situation a évolué?
La situation n'a pas beaucoup évolué parce que au regard des différentes des différentes opérations de sortie d'enfants des forces armées, notamment les derniers groupes qui se sont, décidés à intégrer le processus d'intégration, à rejoindre le processus d'intégration, je veux dire. Il s'est avéré qu'il y a toujours des enfants dans ces groupes-là,
mm-hmm.
et que donc le phénomène est toujours là, beaucoup persistant et pernicieux,
mm-hmm.
dans les pratiques des gens qui sont encore en train de travailler au sein des groupes allemands.
Oui, la coalition a dénoncé, et quelles sont les propositions pour prévenir cette situation?
Oui, la coalition, sur base de cette recherche qui a pris place à partir du mois de mai de l'année passée, a rendu public une série de constats, de résultats de sa recherche, et naturellement a suggéré, a proposé quelques réponses au travers des recommandations qu'elle a formulées vis-à-vis des différents intervenants.
Mmh.
Et en premier lieu, d'abord, à l'endroit du gouvernement, qui a l'obligation souveraine de pouvoir protéger les enfants, c'est-à-dire les protéger non seulement, assurer, prévenir que ces pratiques ne les touchent pas, mais surtout à réhabiliter ceux qui sont dans cette situation d'association ou d'activité au sein des groupes armés. Dès qu'ils sortent, que la prise en charge soit efficace, efficiente,
mm-hmm.
et comme l'a souligné un de nos collègues, même Gauthier tout à l'heure, la question de la réinsertion est tout à fait une priorité.
Oui.
Une réinsertion bien suivie, bien accompagnée, bien sûr.
Mm-hmm.
Et nous avons aussi formulé quelques recommandations à l'endroit des intervenants humanitaires, notamment les agences onusiennes et autres ONG nationales et internationales, pour les amener à penser une bonne intégration, une bonne réponse qui est basée sur les besoins des enfants, spécifiquement sur ceux des filles, comme les filles, les expériences des filles, ça on ne le dit pas toujours dans les rapports qui touchent les expériences des enfants dans les années. Les expériences des filles sont particulièrement meurtrières, je peux dire, sur le plan psychosocial, et il est un besoin intérieur de pouvoir répondre à ce que les filles peuvent avoir comme besoin à ce moment-là, quand ils doivent réinsérer ou réintégrer leur communauté.
Mm-hmm.
Et naturellement, puisque la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, est partie de certains instruments internationaux, et qu'elle a pris des mesures de prévention au travers d'une panoplie de lois, notamment sa loi fondamentale, la Constitution, pour prévenir ces cas d'enrôlement d'enfants, de recrutement,
oui.
d'utilisation d'enfants
par
les groupes armés,
mm-hmm.
il est évident que nous avons recommandé que cesse l'impunité vis-à-vis des personnes qui s'obstinent à continuer à recruter les enfants.
Oui, mais Bonny, s'il vous plaît, en fait, là, vous parlez plus des enfants qui ont été recrutés dans les groupes armés et qui ont été peut-être démobilisés, mais nous parlons maintenant de la prévention. Comment prévenir pour que ces enfants ne puissent pas être recrutés? C'est vrai que vous avez fait allusion des enfants qui étaient peut-être dans les groupes armés, qui ont été démobilisés, mais qui retournent dans les groupes armés. Mais nous parlons, par exemple, de ces enfants qui ne sont pas encore allés dans les groupes armés. Comment protéger ces enfants pour éviter à ceux qui puissent pouvoir faire partie de ces groupes armés?
Oui, nous avons relevé quelques causes, les causes profondes. Après analyse et très profonde de la situation, nous avons identifié certaines causes auxquelles il faut s'attaquer systématiquement pour répondre à cette question de prévention.
Oui, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples?
Il y a d'abord l'insécurité chronique. Il faut mettre fin à l'insécurité chronique dans les communautés où se vit cette pratique-là. C'est clair. Dès lors qu'il y a sécurité dans un environnement, il est clair que les enfants seront mieux protégés parce que les lois seront mieux appliquées.
Mmh.
Voilà. Oui. Deuxième chose, il y a la pauvreté des familles, la pauvreté de communautés qui est identifiée comme étant une des causes, mais pas une cause déterminante en dernière analyse, bien sûr, c'est que les parents n'ont pas d'opportunités économiques pour pouvoir s'occuper de la manière la
plus
efficace de leurs enfants.
Merci beaucoup, Bonnie. Oui, vous avez déjà donné quelques causes, vous avez donné aussi la prévention, vous avez plus allusion aux enfants qui étaient déjà dans les groupes armés. Merci beaucoup pour votre intervention à cette émission. Nous allons aussi donner la parole à d'autres auditeurs qui voudraient aussi s'exprimer sur ce sujet. Nous avons Ernest de Matadi. Bonjour Ernest.
Bonjour Aline Papi.
Ernest, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Merci. Arsène qui a pris la parole pour la première fois, donner un peu d'histoire sur l'évolution des enfants dans l'armée. Et il est arrivé au niveau de l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui est venu avec cette force de recruter les enfants dans l'armée. Maintenant, s'il faut prévenir, il faut d'abord commencer par revoir la situation des enfants au niveau de l'école. Moi, je pense que si les enfants sont tous à l'école, ils auront moins de tentatives d'être enrôlés dans l'armée.
Mm-hmm.
À ces enfants, il faut éviter qu'ils aient le goût de l'argent avant l'âge de travailler. Donc, l'école et le travail, on doit faire l'écart, le rapport. Mm-hmm. Et maintenant, s'il y a encore 40% des enfants dans ce groupe de Maïmaï, parce qu'il se rend compte que les enfants recrutés à l'époque de la FNL, jusqu'à X temps, qu'on a appelé Kadogo, les responsables de cette formation militaire n'ont jamais été inquiétés ou ne sont pas inquiétés du tout. Et ceux qui sont là aujourd'hui, responsables de ces milices, ça nous redonne pour dire, voilà l'exemple. Il faut militer d'abord.
Et les
enfants à l'école, finir ceux qui récrivent ces enfants sévèrement en partant de l'histoire de l'AFDEL jusqu'à ce jour. Comme le cadeau de connu de tous.
Oui. Merci beaucoup, Ernest. Vous pensez qu'il faut passer par la lutte contre l'impunité, hein, ce qui permettrait de pouvoir vraiment, effectivement, réduire, prévenir ces cas de recrutement. Merci pour votre intervention, Ernest. Bonjour, Ali.
Oui, bonjour madame.
Oui, de Goma, on vous écoute. Comment lutter contre le recrutement des enfants, surtout vous qui êtes à Goma, à l'Est?
Oui, je crois madame qu'avec ce deuxième rapport qui vient d'être publié par les ONG, je dis le deuxième point que l'État, le gouvernement maintient, qui est aussi la semaine passée de publier un rapport, de quel rapport prendrait le gouvernement congolais d'enrôler des enfants dans les différents groupes de l'armée. Je dis que c'est une grande confirmation pour nous qui vivons ici à l'Est. Et cela, c'est un signe qui montre encore qu'il y a l'absence de l'État sur plusieurs territoires du pays.
Oui,
mais néanmoins, pour prévenir l'enrôlement des enfants dans l'armée ou dans les groupes armés, je crois que la première chose à faire, c'est de rétablir l'autorité d'État sur l'ensemble du territoire national. Si on a l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, nous pouvons vraiment éviter ce qu'il y ait l'enrôlement pour faire des enfants dans les différents groupes ici.
Mm-hmm.
La deuxième chose à faire, c'est de punir sévèrement tous les seigneurs et les guerres. Parce que ces gens-là sont connus, les autres sont à Kinshasa, ils sont bien connus. On ne doit pas attendre que la tête de l'île puisse arrêter tous ces gens-là. Que la justice congolaise puisse faire sa part. Et en troisième lieu, il faut, comme tous les auteurs sont en train de le dire, permettre l'accès à l'éducation. Et l'éducation doit être gratuite pour tous les enfants. Je vois que les enfants qui n'étudient pas seront toujours à tout moment tentés de se faire enrôler par force dans les groupes armés. Je vois que c'est ça les grands problèmes que nous avions. On peut bon dire les choses, on peut étudier, mais l'État quand même aussi doit jouer son rôle. Nous nous posons la question, est-ce que les gouvernements congolais doivent toujours attendre les rapports des différentes organisations pour intervenir, ou bien les gouvernements aussi ne mettent pas des rapports pour savoir qu'il y a des enfants qui sont enrôlés. Nous nous demandons vraiment ce que le gouvernement est en train de faire pour la population.
Merci beaucoup Ali pour votre intervention à partir de Goma, c'est au Nord Kivu.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
et vous êtes branché sur Radio Capi dans son émission Parole aux auditeurs pour débuter la semaine ce lundi. Nous nous focalisons sur la prévention du recrutement des enfants dans les groupes armés d'après une étude de la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats dont les résultats ont été publiés la semaine dernière. Les enfants représentent jusqu'à 40% d'éléments des groupes Maï Maï dans les deux Kivus. Le résultat de cette enquête nous permet de parler des enfants associés aux forces et groupes armés. La question comment protéger les enfants contre le recrutement dans les groupes armés. Nous avons invité à cet effet M. Gauthier Louyela, il est directeur chargé de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants. Si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081 99 77 800, le 081 99 77 800, soit nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Monsieur Gauthier Louyela, vous avez suivi encore la série d'auditeurs. Monsieur Louyela, souvent les recrutements d'enfants se lient d'abord, il faut qu'il y ait d'abord un conflit armé pour qu'on puisse parler de recrutement d'enfants, mais quand même il y a des textes juridiques qui permettent en fait d'être appliqués pendant cette période de conflit. Est-ce que vous arrivez à sensibiliser par exemple les groupes qui sont en conflit à pouvoir par exemple respecter le droit international humanitaire?
Merci madame, je suis avec beaucoup d'intérêt les auditeurs qui sont passés, ils ont parfaitement raison. L'insécurité est chronique dans certaines régions de notre pays, est la cause principale du recrutement des enfants, et la pauvreté également. Mais, je crois que l'État est en train, le gouvernement est conscient, il est en train de prendre toutes les dispositions pour enrayer ce phénomène. Et avec tout le programme Amani, avec tous les efforts que le gouvernement a fournis, je crois qu'on y arriverait. Il y a le programme des cinq chantiers qui va réhabiliter l'homme, je crois, au finish. Pourra redonner du travail, pourra construire les écoles pour pouvoir recevoir le plus d'enfants, et ça c'est finalement des résultats escomptés qu'on peut attendre. Mm-hmm. Et je voulais aussi rappeler que par rapport à cela, par rapport à la prévention, le ministère du Genre a organisé depuis déjà 2003 plusieurs campagnes de sensibilisation, de mobilisation sociale sur la famille comme cadre idéal pour le développement et l'épanouissement de l'enfant. Et la campagne, cette campagne avait consisté à sensibiliser les parents pour leur montrer et démontrer que la pauvreté n'est liée pas à l'entretien et l'encadrement des enfants. Et à l'issue de cette campagne qui était nationale, plusieurs milliers d'enfants, groupes familiales, avaient été...
Mais monsieur Louyela, concernant ces enfants, le recrutement d'enfants, c'est vrai que qu'on soit en guerre ou pas en guerre, on est obligé à respecter certains traités internationaux, mais pour l'instant, comme il y a toujours des postes de résistance à l'Est, qu'est-ce qui est fait en fait, parce que le droit international humanitaire permet en fait qu'on puisse ne pas recruter les enfants dans les groupes armés. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, par exemple, de ce côté-là, pour que les enfants soient protégés?
Oui, je vous disais, madame, que le gouvernement par le couchement du chef, le chef de l'État avait en janvier pris un décret pour pouvoir promulguer la loi portant protection de l'enfant, qui en fait harmonisait notre législation interne par rapport aux textes internationaux. Mm-hmm. Et il faut dire que notre ministère du Genre avait pris le leadership pour pouvoir rédiger avec les autres ministères impliqués, les autres partenaires impliqués sur cette question, un plan de communication en appui à la vulgarisation et la mise en appui et à l'application plutôt de cette loi. Depuis lors, plusieurs actions sont menées, notamment dans le sens de la vulgarisation de la loi, de la formation de ceux qui doivent dire le droit, les opérateurs judiciaires, et même la vulgarisation, on est en train de projeter et d'organiser la sensibilisation à travers le pays.
Oui,
et en même temps qu'on est en train de vulgariser, avec nos partenaires comme l'UNICEF, on est en train de doter déjà en moyens matériels de futurs tribunaux d'enfants qui vont, dans un proche avenir, voir le jour.
Merci beaucoup, M. Gauthier. Nous prenons Céline de Save the Children, qui est une organisation internationale de protection de l'enfant, mais aussi Daniel est en ligne à partir de Guérima.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Selengue.
Oui, bonjour, madame.
Vous faites partie de Save the Children, c'est une organisation internationale de protection de l'enfant. Vous êtes chargé de structures d'encadrement, recherche et unification familiale. Vous êtes sur terrain. Quelle est la situation des enfants soldats?
Cette situation est vraiment alarmante parce que selon certains enfants que nous recevons et qui sortent dans les forces et groupes armés, ils nous disent qu'il y a beaucoup d'enfants dans les groupes dans lesquels ils sont en train de sortir. Donc, et parmi ces enfants aussi, il y a des enfants que nous réunissions et quelques mois après, vous retrouverez encore cet enfant déjà réunifié et sortir encore de ces groupes de forces armées. Donc, la situation est catastrophique.
Oui, et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour d'abord casser ce cycle vicieux, mais aussi prévenir pour que d'autres enfants ne puissent pas aller vers les groupes armés?
Cette prévention se situe à deux niveaux. Selon moi, il faut faire un plaidoyer et sensibiliser. Donc, plaidoyer et sensibiliser, ceci permettra à prévenir l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés et ça prévient aussi le recrutement des enfants.
Comme nous savons, il y a aussi la pauvreté, comme l'a souligné certains auditeurs, il y a aussi l'accès à l'éducation qui est assez difficile, ce qui favorise aussi ce recrutement d'enfants. Et dans ce sens-là, quelles sont les propositions que vous pouvez faire, parce que vous êtes un expert, vous connaissez bien la situation de l'enfant?
Comme je disais que ça se situe à deux niveaux, donc les plaidoyers d'abord, ici il fallait qu'on organise des contacts et des discussions avec les forces et groupes armés qui devront être entrepris, donc ces contacts devront être entrepris dans le cadre d'un programme coordonné avec les autorités locales ainsi que les autorités nationales, sans oublier aussi le système des Nations Unies et les agences de protection de l'enfance. Et ces négociations avec ces groupes et forces armées devraient viser l'obtention des accords écrits et inconditionnels de libérer les enfants. Donc ça, c'est au niveau des plaidoyers. Et au niveau de sensibilisation, quand nous faisons le terrain, vous verrez même le FARDC qui est l'armée nationale, ils sont moins informés de recrutement d'enfants. Donc ils ne connaissent rien. Et cette sensibilisation, ça peut nous mener à améliorer l'environnement protecteur de ces enfants. Donc, différents niveaux sont à viser dans cette sensibilisation. Donc, les enfants, il faut sensibiliser les enfants eux-mêmes pour qu'ils comprennent leurs droits, les défendre et les promouvoir en cas de besoin. En deuxième lieu, il faut sensibiliser aussi les familles et les communautés, les informer qu'il existe des instruments juridiques national et international, en fait, qu'ils puissent résister au recrutement des enfants et plaider pour leur libération et soutenir le processus de réintégration, de réinsérer ces enfants dans leur communauté respective. Ensuite, il y a les forces et groupes armés. Et quand nous faisons des réunifications dans la communauté, parce que parfois, il ne nous est pas permis d'être en contact avec ces groupes armés. D'ailleurs, là où ils sont, ce sont des zones qui sont plus ou moins inaccessibles. Nous arrivons quand même à sensibiliser la communauté. Est-ce que les gens qui sont dans la forêt, dans les groupes Maï Maï et autres, sont les enfants de la communauté? Et nous proposons, par exemple, si nous arrivons à informer la communauté, ces informations peuvent parfois les arriver, tant que ce sont les enfants de la communauté, ils viennent des communautés dans lesquelles nous travaillons. Et quand vous voyez bien, ces forces groupes armés, on peut parler ici précisément de Maï Maï, ils ne connaissent rien de la protection des enfants, ils ne connaissent absolument rien. Donc, cette sensibilisation est élément nécessaire. Donc, ceci, quand on sensibilise les forces groupes armés, il faut créer les conditions favorables pour que ces forces groupes armés libèrent les enfants.
Et quand vous faites allusion aux conditions favorables, qu'est-ce que vous voulez dire à ce niveau-là?
Donc, ces conditions favorables, il faut d'abord les informer. Les informer que récupérer un enfant, c'est une infraction qui est vraiment reconnue au niveau national et au niveau international. Une fois, s'ils sont sensibilisés, ils peuvent peut-être comprendre quelque chose et grâce à cette sensibilisation, ils peuvent accepter de libérer les enfants dans des conditions qui sont acceptables.
Merci beaucoup, Selengue. Pour votre intervention, vous travaillez dans Save the Children, c'est une ONG internationale, et vous êtes en fait chargé de structures d'encadrement, recherche et unification familiale. Merci pour votre intervention. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour.
Oui, Daniel, vous nous appelez de Guémena. On vous écoute.
Ok. Je pense que souvent les enfants naturels qui ont été conseillés par certaines personnes. Je pense que la conception des enfants, c'est aussi à la base de ce qui peuvent être.
S'il vous plaît, Daniel, est-ce que vous pouvez d'abord changer de position pour avoir une meilleure qualité de son, parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Ok, merci.
Oui, vous le dites.
Je dis que certaines personnes ont été revenir de nous.
En tout cas, Daniel, c'est très difficile de pouvoir écouter ce que vous êtes en train de nous dire. La réalisation va essayer de pouvoir vous recontacter. Peut-être la qualité sera meilleure.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Louis est là, vous êtes toujours en ligne, j'espère.
Oui, madame.
Vous avez suivi nos auditeurs, votre réaction?
Oui, ils ont parfaitement raison. Monsieur Schelling de Save the Children a parfaitement raison. Et c'est tout ce que, heureusement, il a développé là-bas, c'est que il figure dans la feuille de route du ministère déjà. Et le plaidoyer, je voulais ajouter, fait en direction des groupes armés, c'est plutôt vers la communauté internationale, vers vous, du système de la Saint-Denis, que nous tournons votre demande pour pouvoir contacter ces groupes armés réfractaires, pour pouvoir les sensibiliser afin d'arrêter le recrutement et de informer, de prévenir que tôt ou tard la sanction finit par tomber.
Mmh.
Et de la sensibilisation, c'est vrai, c'est notre cheval de bataille. Le pays étant très vaste, le gouvernement a fait à mettre en place des comités d'enfants au niveau de toutes les écoles, au niveau des organisations des jeunes, pour organiser les enfants en comité afin qu'ils puissent connaître leurs droits, les droits des enfants, afin qu'ils puissent connaître la loi portant protection de l'enfant, qu'ils puissent être outillés à se défendre eux-mêmes. En direction des familles, nous sommes en train de, malgré les difficultés conjoncturelles que connaît le gouvernement, nous sommes en train de sensibiliser au fur et à mesure depuis 2004 les familles pour pouvoir arrêter la séparation des familles.
Mais est-ce que vous défendez vraiment au niveau vraiment de la base? Est-ce que vous allez dans des villages, dans des territoires pour la sensibilisation?
Oui, maman,
ou bien vous restez dans les grandes
villes? Les deux mécanismes de suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants que le gouvernement a mis en place, c'est la Direction de la protection de l'enfant et le Conseil national des enfants. Ce Conseil national de l'enfant est structuré jusqu'au niveau de la base. En province, il y a le Conseil provinciale et au niveau de la base du territoire, il y a le conseil local de promotion et de protection de l'enfant. Mmh. Le travail se fait, mais comprenez que la conjoncture ne se permette pas et l'étendue du pays et l'insécurité aussi n'a pas permis de descendre vraisemblablement à la base. Le moyen pour disponibiliser le support n'a pas malheureusement suivi et que maintenant nous relançons avec le plan de communication que nous avons élaboré. On essaie de relancer avec l'appui des principaux partenaires dont l'UNICEF. Nous avons le pari de descendre vraiment jusqu'à la base pour essayer d'enrayer une fois pour toutes ce problème.
Nous allons prendre John qui est en Bougimène, mais aussi Arsène de Bukavu. On commence par John. Bonjour John.
Bonjour madame.
John, on vous écoute.
Oui, c'est par rapport à cette question très importante.
Oui.
Oui, personnellement, j'ai comme l'impression que votre invité du ministère des Jeunes, Familles et Enfants, apparemment, auprès du ministère, ils n'ont pas un programme approprié pour la réinsertion de ces enfants.
Vous parlez de la réinsertion des enfants qui ont été dans les groupes armés.
Bien sûr, parce que, et en plus de cela, il y a aussi tous les responsables de ces groupes armés qui, parmi les autres qui sont aujourd'hui à Kinshasa en train de circuler comme il faut, les autres dans les provinces où ils ont fait des atrocités, mais si le gouvernement avait un programme approprié, non seulement pour arrêter et traduire devant la justice les responsables qui ont mis les enfants dans leurs groupes armés respectifs, là, on devrait non seulement comprendre ceux qui sont en train de prendre encore les enfants dans leur groupe d'armée, à ne plus encore engager ces enfants. Et aussi, il faut que les enfants soient très bien intégrés. C'est-à-dire, il doit y avoir un programme, non seulement lorsqu'on va prendre ces enfants de leur vie militaire pour les amener dans la vie civile, comment ils doivent être. Parce que ces enfants, dans leur groupe d'armée, il y avait des ceux qui avaient de l'argent, ils devaient manipuler les minerais, ils devraient faire des ventes illicites, ils devraient traquer les gens à cause de notre pouvoir de l'argent. Mais quand on va les intégrer dans la vie civile, ces derniers n'auront presque rien. Et qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire là-dessus?
Mmh. Merci beaucoup Arsène pour votre intervention à partir de Mbujimayi au Kasaï oriental. Nous prenons directement Arsène de Bukavu. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour.
Oui, Arsène.
Moi, c'est Arsène Elie. C'est Arsène Elie Longuel, hein, le responsable des AFBEL TPJ.
Oui.
Bon, j'ai réagi à notre sujet d'aujourd'hui concernant la recherche des enfants.
On parle plus de la prévention, bon, la prévention du recrutement des enfants.
Bon, quelque part, je vois que notre gouvernement a des fautes aussi. Parce que souvent, quand il y a les recherches des groupes armés, au programme Amani, on a vu leurs risques. Et ils devraient d'abord nécessairement commencer à voir toutes ces personnes-là. Ici, dans la ville de Bukavu, précisément, dans les milieux périphériques, au Chabunda, Mwenga, il y a autant de groupes armés qui sont intégrés à l'FRDC. Pourquoi on peut intégrer quelqu'un dans l'FRDC qu'on ne les connaît pas? Il fallait voir d'abord la personne, il fallait voir son âge, il est qui, il est de quelle nationalité. Mais sinon, on voit seulement les noms sans voir des personnes, quelque part, ça ne pourrait pas être une bonne chose. Donc, je vois que la faute appartient à notre gouvernement. Il fallait que le gouvernement voie toutes ces personnes-là, ça pourrait nécessairement aller comme ça.
Mais après, quelles sont les propositions pour prévenir, pour que les enfants, les personnes âgées de moins de 18 ans ne puissent pas être, faire partie des groupes armés?
Le gouvernement lui-même a fait prévention. Le gouvernement lui-même s'est prononcé dans quel sens? Il fallait intégrer des personnes physiques, donc des personnes qui vont voir leur état, leurs conditions, il vient d'où, âge, tout ça, ça pouvait nécessairement être. On ne pouvait pas seulement intégrer.
Oui, mais merci. Merci beaucoup Arsène, on a compris, vous pensez que vous parlez plus du processus de réintégration, hein, de réintégration des groupes armés dans la force nationale ou FRDC. Mais je pense qu'il y a beaucoup de règles par rapport à cela, mais notre invité qui est en ligne pourra donner davantage de précisions. Il y a Augustin Kasserika qui est parti de Butembo. Il dit quant à ce qui concerne le recrutement des enfants soldats, cette pratique sera éradiquée que si et seulement si les milices prennent fin. Le gouvernement congolais doit beaucoup travailler pour éliminer ce phénomène. Il y a aussi Inda et Denis Moussafi de Bukavu. Il écrit ceci: le nombre d'enfants sur la rue s'accroît chaque jour. Ces enfants fuient la misère, les problèmes familiaux et de plusieurs genres, notamment l'incapacité des parents à satisfaire leurs besoins. Même les parents qui travaillent, 80% leur salaire n'est pas en mesure de couvrir les besoins primaires de la maison durant 3 jours afin de maîtriser les enfants. Il dit alors il est vraiment difficile d'empêcher le mouvement de recrutement d'enfants quand cet enfant soldat prend déjà ses responsabilités à sa manière, en assurant même la survie de la famille. Si je peux ajouter, ces enfants proviennent souvent des familles monoparentales ou les orphelins de 2 parents. Nous prenons aussi Éloge, il est de l'UNICEF. Bonjour Éloge Lusambia.
Bonjour madame, ça va?
Oui, ça va. Vous êtes administrateur chargé de la protection à l'UNICEF. L'UNICEF est plusieurs fois cité dans la protection de l'enfant, mais notamment, que faites-vous pour protéger, surtout prévenir le recrutement d'enfants?
Premièrement, il y a un grand travail qui est fait pour préparer les familles et préparer les enfants au risque qu'il y a lorsque il y a des conflits ou des combats qui éclatent, pour que les familles sachent quel geste poser et quel geste n'est pas posé, pour ne pas d'abord se séparer avec l'enfant. Parce que le recrutement assez souvent arrive lorsque l'enfant est séparé de sa famille.
Oui.
Là, vraiment, le risque est très élevé. Deuxièmement, il y a tout un travail aussi de surveillance qui est fait pour identifier les zones à haut risque de recrutement. Et dans ces zones, l'UNICEF a essayé de mener un ensemble d'activités, soit pour mettre en place des espaces pour enfants, qui sont des espaces permettant aux enfants de jouer durant la journée, et étant sous la surveillance d'un adulte, il est assez difficile que les recrutements viennent se faire dans ces zones. D'autant plus qu'on a noté que les recrutements, c'est vrai que dans certains cas, on a eu des recrutements dans des écoles où les enfants étaient sous la surveillance des adultes, mais assez souvent, ils arrivent aussi parfois dans des zones où l'enfant se retrouve tout seul, il n'y a personne qui puisse voir, parce que assez souvent, les groupes armés savent que recruter un enfant, c'est une violation grave. Et ils préfèrent le faire à l'abri de tous les regards. Troisièmement, il y a tout un travail qui est fait aussi dans certaines écoles, lorsque les écoles se situent dans une zone à haut risque de recrutement, pour essayer de préparer les enseignants, les enfants, les comités des parents, non seulement pour qu'ils puissent communiquer l'information sur le recrutement, mais aussi s'il y a des possibilités de ne pas exposer les enfants, que quelques précautions soient prises dans ces différentes écoles.
Oui.
Donc voilà un peu ce que je peux dire assez rapidement.
Oui, mais dites-nous un peu, qu'est-ce que vous demandez souvent à ces populations? Aujourd'hui, quand même, Radio Sapi est suivi dans plusieurs endroits de la RDC, et même dans des zones assez difficiles, qui sont justement accessibles. Mais quel est le message que vous pouvez lancer pour pouvoir éviter, prévenir en fait le recrutement des enfants?
Aux parents, premièrement, je sais que dans certaines communautés, les enfants sont allés dans les groupes armés avec la bénédiction de leur famille, des communautés, soi-disant pour appuyer un certain élan d'autoprotection au sein de la famille. J'aimerais dire aux parents que assez souvent, nous n'avons pas une idée claire de ce que vivent les enfants quand ils sont dans les forces des groupes armés. En croyant les protéger, en les envoyant là-dedans, nous hypothéquons énormément leur avenir. Il y a des possibilités à ce que si c'est une question de protection des terres, de survie, je pense que c'est la responsabilité des adultes et les enfants ne doivent pas être mis dans ça. Ça, le message que je lancerai aux parents, c'est de dire, gardez les enfants loin des guerres, si pour autant que cela dépend de vous. Deuxièmement, un message à l'endroit peut-être de ces mêmes communautés, parce que l'enfant qui est recruté, s'il n'en parle pas, s'il ne communique pas cette information, il est difficile qu'on puisse se rendre compte qu'à tel endroit il y a eu des recrutements. Qu'il ne se fatigue pas, c'est vrai que c'est un travail
qui est assez difficile, mais ils peuvent toujours continuer à ne pas se taire et à dire oh, qu'il y a eu des recrutements à tel endroit, il y a eu des recrutements à tel endroit. Et
en tout cas, merci beaucoup, monsieur Elogé Lusambia. Vous êtes administrateur chargé de la protection à l'UNICEF. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous remettons la parole à Gauthier, monsieur Gauthier Louyéla, pour conclure en une minute.
Oui, merci madame. Je voudrais dire, pour terminer, que l'effort de réinsertion des enfants associés au groupe de forces armées a été effectivement soutenu par le gouvernement de la République. Souvenez-vous, l'opinion doit se souvenir du programme TDR qui a soutenu à l'époque la réinsertion de plus de 30 594 enfants qui avaient été relâchés par les forces des groupes armés à travers les phases consacrées à la ressource familiale, à la réunification et à l'octroi de l'appui à la réinsertion. Et sur ce, il y avait eu des enfants qui avaient été formés dans
Monsieur Louyéla, nous sommes déjà arrivés à la fin vraiment de cette émission. Peut-être nous pourrons revenir sur cette question prochainement. Merci de votre participation. Nous disons aussi merci à vous, auditeurs, pour vos interventions, mais aussi merci à ceux qui nous ont suivis en fréquence modulée à travers le pays, et merci aussi à ceux qui se sont connectés sur www.radiocapi.net. Le prochain numéro de Parole aux auditeurs, c'est pour demain, mardi, et nous parlerons de la malnutrition. De nombreux cas de malnutrition sont constatés dans diverses zones de santé en RDC. Quelle est la situation dans votre milieu? Selon vous, que faut-il faire pour lutter contre la malnutrition? Réagissez dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiookapi.net. Je vous dis merci et à demain.